deux derniers psaumes donc, qui ont été lus, le 3 et le 83. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, il y a déjà 437 ans, un peuple de Dieu, appelé les Huguenots, furent exposés à des violences terribles à Paris et dans bien d'autres villes du royaume. Cet événement horrible d'intolérance est resté dans notre mémoire collective, la nuit tragique de la Saint-Barthélemy. Demain, le 24 août 2009, sera jour férié dans le canton de Genève, en Suisse, en commémoration des martyrs réformés, morts à cause de leur foi, morts pour une réformation considérée par d'autres chrétiens d'hérétique et de sacrilège. Le protestantisme devait être éradiqué du royaume. En tout cas, ce fut un coup d'arrêt définitif à l'essor du protestantisme en France. On pourrait se dire que ce genre de tragédie est définitivement relayé au lointain passé. Nous pourrions pratiquement l'oublier, l'effacer de notre mémoire collective, de notre mémoire protestante. Est-ce raisonnable? Ô Seigneur, protège-nous des horreurs de l'humanité. Comme le roi David le dit si bien dans le psaume 3, « Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. » Sommes-nous si sûrs d'une paix religieuse stable et éternelle? De par notre monde, des nations sont encore tentées par des guerres de religion ou par des tensions interreligieuses chroniques. Tous les peuples de la terre peuvent à tout moment succomber aux tentations du sectarisme religieux, aux tentations d'identifier une nation à une seule religion. Trop d'États de par le monde, pourtant membres des Nations Unies, ont désigné et proclamé une religion sur l'ensemble des autres, comme la religion officielle, légitime, nationale et parfois même unique. Trop de pays dans le concert des nations vivent toujours sur la vieille devise archaïque du roi Louis XIV, un chef, une loi, une foi. Enfin, plus exactement, un roi, une loi, une foi. Un principe totalitaire, absolutiste et tyrannique qui avait entraîné l'interdiction de la réformation et du protestantisme dans le royaume de France par la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Beaucoup trop de pays n'arrivent pas à intégrer, à comprendre encore le principe de la diversité religieuse, du pluralisme de la pratique de la foi, de la réalité des multiples chemins de l'engagement spirituel, de la cohabitation pacifique et juste des différentes religions sur le même territoire national, de la non-hiérarchisation des religions, c'est-à-dire que les institutions d'un pays soient capables de mettre à égalité les églises et les religions, quel que soit le nombre des adhérents et leur niveau d'importance sur l'ensemble du territoire. Nous devrions trouver dans chaque grande capitale des 5 grands continents du monde des églises orthodoxes, catholiques, des temples protestants, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, des mosquées et des synagogues. Est-ce vraiment la réalité aujourd'hui? Malheureusement, trop de pouvoirs en place instrumentalisent les religions au profit de leur intérêt, de leur objectif politique. Mais pire encore, certaines églises instrumentalisent et manipulent le pouvoir laïque afin d'accroître par les pressions politiques et sociales le nombre de leurs fidèles. Quand l'unité nationale s'établit sur une seule religion, alors il y a danger et d'autres Saint-Barthélemy peuvent se répéter. Le danger est grand quand il y a confusion entre l'Église et le pouvoir. Ou bien sommes-nous toujours dans la croyance meurtrière qu'une foi s'impose par la force, que l'on est prisonnier à vie d'une appartenance religieuse, qu'un citoyen reste un simple sujet de son monarque et qu'il n'a pas le droit de choisir une religion différente de son roi ou de son chef de clan, de son chef ethnique ou de son président, qu'il n'a pas le droit de changer de religion, qu'il doit se soumettre à la religion officielle de l'État et de son gouvernement, qu'il n'a pas le droit d'être hors de toute religion, que l'athéisme et l'agnosticisme sont des délits. Trop de religieux, de par le monde, pensent que le pouvoir et la menace sont des outils efficaces de conversion. Alors, de nouvelles Saint-Barthélemy sont en perspective. Dans tant de pays, les minorités religieuses sont suspectées de trahison, d'opposition, de résistance, et en période de crise économique ou politique, la tentation d'exclusion et d'expropriation des biens de ces églises sont grandes. Quand arrêterons-nous d'être fascinés par la violence, le sectarisme, la corruption, la xénophobie et la haine, quand nous croyons saisir l'opportunité d'une éradication, du goût malsain et corrompu, du monopole politique et religieux? Alors, une nouvelle Saint-Barthélemy est proche. Quelle immense tristesse de voir qu'au nom de Dieu, on marginalise, on rejette, on haït, on exclut, on condamne. Grand est le péché de l'homme quand il fausse un commandement d'amour universel pour le transformer en manipulation, en persécution et rejet. Au nom de l'amour, tant d'hommes ont servi la haine, la terreur. Ô Seigneur, protège-nous de nos perversités, de nos hypocrisies, de nos égoïsmes. Quand on utilise Dieu pour ses intérêts, alors en vérité, on le rejette. On le dénature, on l'humilie, On en fait un simple objet de nos fantasmes et de nos ambitions politiques. Soyons comme ces prophètes juifs qui osaient critiquer les rois d'Israël. L'Église n'a pas pour fonction de nous rendre dociles et soumis à tous les pouvoirs institutionnels. Nos églises pécheresses sont là pour réveiller la conscience, nos consciences avec l'aide du Saint-Esprit. N'avons-nous pas, par la foi, de vraies valeurs à défendre, malgré l'adversité de nos ennemis? Le psaume 3 dit « Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. Je n'ai plus peur de ces milliers de gens qui m'assaillent de tous côtés. » Il y a plus grave encore, quand une Église s'attribue le qualificatif de révolutionnaire, alors toutes les exactions semblent possibles, semblent permises, au nom du pouvoir révolutionnaire religieux. D'autres Saint-Barthélemy s'improvisent dans l'impunité, dans la haine sociale. Des faux dieux, des théologiens fondamentalistes révolutionnaires déforment l'image de Dieu en grands commanditaires de purification religieuse, de purification ethnique, et le tout se confond. L'acte de purification est un appel sans pitié, de condamnation aux impies, aux infidèles, aux hérétiques. Car on établit par une théologie déviante une dualité radicale entre pur et impur, entre fidèle et infidèle, entre les vrais et les faux. Toutes les déraisons et toutes les irrationalités émotives s'engouffrent dans cette faille d'une humanité séparée, entre les bons et les mauvais, entre l'axe du mal et l'axe du bien. Évidemment, chaque Église peut se considérer comme l'incarnation du bien face aux autres qui sont dans l'erreur théologique. La théologie est-elle devenue une science meurtrière? Pourtant, le message de Jésus est limpide, simple et lumineux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au nom de l'amour, nous ne pourrions pas répéter d'autres Saint-Barthélemy. Comment un commandement d'amour, expression de la loi suprême, peut-il se métamorphoser en folie meurtrière? On ne sème pas la vie et l'espérance par la mort. Toutes les Saint-Barthélemy de par le monde desservent les religions et Dieu. Le concept de force spirituelle est une notion que nous devons utiliser à l'intérieur de nous-mêmes, par un travail sur soi, une véritable introspection et pas à l'extérieur. Le combat spirituel est un juste combat à l'intérieur de soi. Face à ses démons intérieurs, et non sur les autres, sur l'extérieur et le monde. Regardons nos défauts avant de juger les autres courants spirituels. À Dieu seul le jugement. L'homme ne doit pas précéder le jugement de Dieu. À chaque fois, c'est une catastrophe. Les Saint-Barthélemy potentiels rappellent que la liberté religieuse, toujours menacée de par le monde, est sans cesse à gagner. Plus de 1 milliard d'êtres humains sont privés aujourd'hui de la liberté de culte et de la liberté de croyance. Vivons en harmonie avec toutes les églises de Dieu, dans un esprit de respect, d'accueil, de dialogue et de considération. Montrons que le monothéisme n'est pas une théologie absolutiste, sélective, dangereuse et menaçante. Sinon, beaucoup de citoyens se détourneront de la religion. Le processus a déjà commencé depuis plusieurs décennies. Montrons que nos églises, par leur éthique et par leur action, sont les garants de la liberté de conscience, de la liberté de culte, du droit à la résistance face au pouvoir arbitraire. Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, présenta l'idée d'une résistance constitutionnelle qui aurait exercé un contrepoids en cas d'abus du pouvoir royal. Le huguenot François Hauptmann, l'un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance des Provinces-Unies du Midi, les Pays-Bas protestants du Languedoc et du Midi-Pyrénées, suite aux horreurs de la Saint-Barthélemy, disait « Les sujets ne sont pas créés pour le roi, afin d'obéir à lui en tout ce qui lui plaît, raisonnable ou déraisonnable, mais plutôt le roi pour les sujets, afin de les gouverner selon droit et raison. » Fin de citation. Résistance, résistance, résistance pour une conversion par la foi libre, révélée, volontaire, juste, généreuse et fraternelle, et essayer de devenir ainsi juste, vrai et bon. Amen.